100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon guiqueté.
Si vous demandez à un centrafricain de vous parler de tout ce que Barthélemy Boganda, le père fondateur de la République centrafricaine, a fait, il est difficile pour que ce dernier se passe des aspects connus par tout le monde, faute d'une écriture à la base. Du fait que certains Zoubongiens écrivaient peu, pour ne pas que la nouvelle génération et certains anciens tombent dans le même piège, ils ont décidé de tenir leur plume pour écrire. Auditeurs, auditrices de Radio Ndekiluka, soyez les bienvenus dans cette émission. Et vous savez bien, pour retracer l'histoire d'un pays ou d'un peuple, on se focalise sur sa culture qui est l'un des éléments fondamentaux de son développement. Dans cette partie de l'émission 100% culture qui est le café culturel, nous recevons un auxiliaire de la justice qui fut ancien ministre d'État aux travaux publics et à l'équipement, diplômé du Howard School of Law. Et lui, c'est Maître Crepin Mbulingumba dans le studio A de Radio Ndekiluka, auteur de La Nation Centrafricaine et les Récifs, un ouvrage de 298 pages édité par l'Armaton. Maître Crepin Mbulingumba, soyez les bienvenus.
Merci.
Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse parler de culture et non de la politique.
Ça change.
Mais bon, c'est même personne, donc on peut aussi parler de la politique au courant de cette émission, si ça ne vous gêne pas.
Non, il n'y a pas de problème.
Et espérons que vous ne serez pas gêné si on vous pose des questions qui touchent d'autres acteurs politiques de ce pays.
J'espère que ce n'est pas le but de l'émission. Ce n'est pas ad hominem. Nous sommes là pour parler de culture. Comptez pas sur moi pour faire dans la délation, en tout cas.
Moi, c'est Cyrus Armand, c'est mon guiqueté 100% culture. C'est tout de suite, s'il vous plaît.
100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon guiqueté.
Maître Crepin Mbulingumba, votre ouvrage « La Nation Centrafricaine et les Récifs ». Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité, l'occasion ou la chance d'en acheter, est-ce que vous pouvez nous faire juste un résumé ?
Impossible, c'est pour ça que j'ai fait presque 300 pages de livre. On peut pas, c'est à vous de faire ce travail-là. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il s'agit d'un livre qui couvre les 5 dernières années de l'histoire de notre pays. Vous savez que nous avons connu une histoire assez tourmentée. Ayant été acteur de ces 5 dernières années en tant que politique, ministre dans le gouvernement de la transition et continuant depuis à assumer ce rôle de politique en tant que président d'un parti politique à l'Assemblée nationale représenté par des députés, il était important que je donne ma part de vérité sur ce que ce pays a connu pour expliquer pourquoi, au fond, nous sommes derniers au monde. Et évidemment, pour ouvrir des perspectives, parce qu'un pays, malgré les problèmes qu'il peut connaître, il faut qu'il se projette. Voilà le sens de cette écriture-là. Évidemment, il a fallu faire preuve de courage. Vous savez qu'il est difficile en tant que centrafricain d'assumer un certain nombre de choses. Nous avons l'habitude de rester dans la lâcheté. Je veux qu'on sorte de la peur. Je veux prendre ce courage d'aller dire exactement les choses telles que je les ai vécues pour que, évidemment, ceux qui étaient acteurs aussi à ce moment-là, si d'aventure, ils avaient une autre lecture qui vient de me contredire et que, évidemment, le peuple soit gagnant dans l'intervalle. Voilà.
C'est un peu le résumé de votre ouvrage « La Nation Centrafricaine et les Récifs ». Quand j'ai lu le document, j'ai vu la page de couverture, je me suis dit « Mais pourquoi avez-vous choisi de faire un ouvrage qui parle de l'histoire sanglante de la République centrafricaine ?» Et la réponse, c'est ce que vous venez de donner dans le résumé de ce document. La crise centrafricaine, comme vous l'avez souligné dans votre ouvrage, est politique. Certains médias internationaux et certains partenaires qui appuient la République centrafricaine, à un moment donné de l'histoire, parlent d'un conflit interconfessionnel. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la crise centrafricaine demeure toujours politique ou cette crise a pris une nouvelle connotation ?
Ce serait faire preuve de raccourci que de dire qu'il s'agit d'un conflit confessionnel, intercommunautaire, politique. C'est un peu de tout à la fois. C'est un peu de tout à la fois, mais plus que tout, je pense que l'ignorance est à la base de tout ce que nous vivons. Vous savez que dans un pays, et c'est même dans la Constitution, l'obligation d'instruire, la gratuité de l'école jusqu'à un certain âge. Je pense que c'est ce déficit, justement, et cet échec républicain de la mise à disposition des infrastructures scolaires pour permettre au peuple de s'éduquer et donc de s'émanciper de l'ignorance. C'est cet échec-là qui est, à mon avis, à la base de tout. Le vivre ensemble, qu'est-ce que c'est si on n'est pas capable de comprendre que l'autre a aussi le droit de vivre tant que c'est pas violer la Constitution, tant que c'est pas porter atteinte aux droits de l'autre. Donc, à mon avis, cette crise, c'est un peu de tout ça. Mais plus que tout ça, effectivement, c'est une crise qui repose sur l'ignorance. On peut voir les conséquences immédiates, effectivement, politiques, il y a la malgouvernance, il y a le comportement aussi des Centrafricains, surtout des élites politiques de notre pays, dont je suis, et j'assume pleinement ma part de responsabilité, parce que c'est mon éducation, parce que c'est mon tempérament, d'assumer absolument les actes que je pose qui n'ont pas toujours été à la hauteur. Mmh. Et tous ceux qui ont souvent cru en moi sur un certain nombre de choses, mais pour l'essentiel, effectivement, à la lecture de ce livre, et je souhaite en tout cas, le peuple centrafricain se rendra compte que j'ai essayé autant que cela se pouvait d'assumer ma part de responsabilité, de garder le pays debout.
La crise centrafricaine, ça se retrouve plein dans votre ouvrage, un ouvrage avec un style très simple, ça je vous en félicite.
Merci. La vie est déjà assez compliquée comme ça.
Quand je faisais le projet de vous prendre dans cette émission, je me suis dit, ben, j'ai affaire à un avocat, à un juriste, et on va certainement se perdre dans son écriture parce qu'il va nous ramener des jargons juridiques, les vocabulaires juridiques, mais c'est à un niveau simple que même ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à l'université peuvent comprendre. Et merci pour ce style que vous nous avez donné. Vous parlez dans votre avant-propos de recoupement d'informations. Aimeriez-vous défier certaines personnes qui sont à la base de la récente crise centrafricaine et qui oseront prendre le contre-pied des informations de cet ouvrage, ou c'est juste pour justifier vos informations données?
Écoutez, il faudrait préciser les choses. Le livre, il n'a pas été écrit pour défier qui que ce soit. C'est une quête de vérité. Mmh. J'ajouterais une quête courageuse de vérité. Évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse sur certains acteurs clés sans... Moi, je ne suis pas une institution, je ne suis pas la justice. Je suis un leader politique, mais plus que tout, un citoyen. Un citoyen qui a vécu un certain nombre de choses, en même temps que d'autres. Donc, je ne pouvais pas faire l'impasse sur l'identité de ce qu'on appelle les autres, sans pour autant les incriminer en quoi que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Évidemment, puisque ça concerne l'histoire de notre pays, ceux qui pourraient ou qui se sentiraient dans l'obligation de donner leur version des faits, ils sont libres de le faire. Mais encore une fois, le but n'est pas d'incriminer qui que ce soit. C'est l'histoire de notre pays. Et cette histoire ne doit pas être tronquée. Cette histoire ne doit pas reposer sur des légendes urbaines. Voilà tout.
Si vous permettez, j'ai choisi deux voix. La voix de Fanny Christelle Balikossé, une collègue, et de Francisca Lorco Berobintou, pour qu'on puisse décrypter votre ouvrage « La nation centrafricaine et les récifs ». On va écouter... Et les questions pourront venir et vous allez aussi expliquer s'il y a l'incompréhension de la part des auditeurs, de ceux qui vous suivent, et pourquoi pas donner aussi le goût à vos nouveaux lecteurs.
La nation centrafricaine et les récifs, page 11-12, chapitre 1, le malentendu. Il ne faut pas croire que je ne suis pas au courant. Tu n'es qu'un agent de la CIA. Votre groupe criminel est financé par Jack Greenberg, qui passe par l'intermédiaire de son avocat à Bangui, Maître Mbulingumba, pour vous remettre de l'argent. D'ailleurs, pour ton information, Mbulingumba ne vous remet pas l'intégralité de cet argent. Il en ponctionne une bonne partie. C'est à cause du pétrole qu'on me fait la guerre. Boganda est mort pour le pétrole. Bokassa a été écarté à cause du pétrole. Toi aussi, tu mourras à cause du pétrole si tu ne sais pas entendre raison. C'est un monde de mafieux. Il n'y a que moi pour gérer cette histoire. Dis-moi, combien tu veux? On peut s'entendre. Ainsi parlait François Bozizé ce 9 janvier 2013. Dans le silence lugubre de ce bureau sans fenêtre, Michel Djoutoudia ne sait quoi répondre. Ulcéré par cette accusation sans détour et cette tentative de corruption, il est partagé entre la colère et la pitié. Assurément, cet homme, à l'image des ouvertures inexistantes de son bureau, avait perdu le sens des réalités. Monsieur le Président, je suis ici au palais, chez vous, sans mes hommes. Vous pouvez me tuer, je n'ai pas peur de mourir. Mais je ne peux accepter d'être ainsi accusé. Jack Greenberg, je ne le connais pas. D'ailleurs, j'ai du mal à prononcer son nom. Alors arrêtez de m'accuser, car cela ne vous grandit pas. Le pétrole, nous nous sommes battus pour qu'il profite également à notre région. Délaissé depuis l'indépendance, des hommes et des femmes sont morts pour ça. Leur famille ne comprendrait pas qu'après ça, on vous en laisse la gestion. Le seul compromis que nous pouvons faire, c'est de laisser un membre de l'opposition démocratique le gérer.
100% Culture avec Cyrus Armand, c'est mon guichetier.
Bien avant une autre question, Maître Crepin-Bolingouma, est-ce que c'est parce que vous avez eu à faire les études aux États-Unis qu'on vous accusait ce moment directement que vous êtes avocat de ce monsieur ou bien?
Je cherche encore à comprendre, tant que vous, parce que, évidemment, c'était une accusation grave. Vous connaissiez le contexte dans lequel ces accusations ont été proférées. C'était un contexte surchauffé. Il était important que les gens comprennent que quand Jack Greenberg est venu signer en République centrafricaine une convention d'exploration pétrolière avec le régime du président Patassé, je venais d'être chassé de l'université de Bangui en tant que président de l'ANECA. Mm-hmm. J'étais en exil, j'étais étudiant à Dakar. Je veux bien qu'on me prête beaucoup de mérite, mais celui d'être en même temps étudiant et avocat, et d'être dans les capacités physiques d'être à Bangui, il suffisait simplement de procéder à un recoupement d'informations pour voir la vacuité d'une telle accusation. Mais pourtant, au plus haut sommet de l'État, ça a été amplifié. Je n'ai jamais rencontré... Et pour tout vous dire, en tant qu'avocat, j'aurais été honoré d'être l'avocat d'un groupe pétrolier. Mmh. Et pour tout vous dire aussi, même si Hitler avait vécu et qu'il avait eu droit à un procès, il aurait évidemment eu droit à l'assistance d'un avocat.
Ouais.
Donc l'avocat, il fait son travail. Et malheureusement, en République centrafricaine, je n'ai jamais été l'avocat de Jack Greenberg. Voilà.
L'instabilité dans la gestion des choses publiques provient de manque de maturité politique ou de l'exploitation du pétrole centrafricain, maître?
C'est d'abord une responsabilité personnelle. On ne doit pas porter des accusations sur des choses. On n'exploite pas encore le pétrole. Je n'ai pas cette lecture des choses. Je pense qu'avec moi, les gens dans d'autres pays ont pu développer leur pays. Le meilleur investissement, c'est l'homme. Et donc, il nous faut interroger le budget que nous allouons chaque année à l'éducation de notre peuple, de nos enfants. L'ambition nationale, ça se traduit à ces choses simples. Non, je pense que la gouvernance est orpheline d'une vision. La gouvernance dans notre pays est orpheline d'une vraie vision. Et l'absence de vision, c'est parce que depuis au moins 25 ans, je dirais même 30 ans, la machine d'État est l'otage d'une certaine médiocrité qui a fait le tombeau de notre réputation à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde quand on parle de la République centrafricaine, parce que le filtre républicain ne marche plus. On accède à des postes de responsabilité, non pas parce qu'on est méritant, mais parce qu'on est le parent de tel ou tel autre. Mmh. Et donc, du coup, cette gestion ne pouvait être que déficitaire. Or, moi, la République dans laquelle je veux m'investir, c'est cette République qui est décrite dans notre constitution, toutes les constitutions que nous nous sommes données en tant que peuple, à savoir une République qui repose sur le mérite. Quelles que soient nos origines ethniques, tribales, on vient toujours d'une région de notre pays, mais toutes ces régions fondent la République. Et donc, c'est parce que nous avons laissé faire aussi par peur. Nous avons peur dans notre pays. Il faut sortir de cette mentalité de peur qui implique justement la lâcheté. Et c'est aussi ça le sens du livre que j'ai voulu écrire. J'ai voulu écrire un livre qu'on a dit courageux, mais pour moi, ça a eu un rythme normal. C'est comme ça que je conçois la vie. Mmh. Je ne peux pas vivre dans la peur. Et il fallait témoigner aussi pour que le peuple centrafricain sache exactement et sache distribuer les responsabilités, sans naturellement m'exonérer sur ma part de responsabilité en tant que membre d'un gouvernement pendant une période critique et je dirais même sombre de notre pays.
Si vous venez d'écouter Radio Ndeki Local, l'émission c'est
100% Culture avec Cyrus Armand, c'est mon guichetier.
Et dans le studio de Radio Ndeki Local, lui, il est ancien ministre d'État aux travaux publics et à l'équipement, diplômé du Howard School of Law, il est avocat. Lui, c'est Maître Crépin Mbolingumba. Il vient défendre son ouvrage, La Nation Centrafricaine et les Récifs. Il fera la dédicace vendredi à 15h à l'hôtel Ledger. Un document riche en informations d'ici et d'ailleurs. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre, mais dans ce document, vous allez découvrir certaines vérités. Ça, c'est sans commentaire. Moi, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de lire ce document. Maître Crépin, quand je parle des informations qui sont riches dans cet ouvrage, permettez-moi de faire juste une lecture et je vais vous poser une question. C'est la page 13, le deuxième paragraphe. C'est alors que commença, que la haine rompit toutes les digues. Les chiens furent lâchés à la radio et à la télévision nationale, transformés depuis fort longtemps en instruments de propagande au service du pouvoir. Des émissions spéciales sur cette question furent instaurées. J'étais devenu l'homme à abattre. Zama Javon Papa, propagandiste en chef, rivalisait d'outrance avec Pico pour donner des détails de ma trahison, si je vais plus loin afin d'arrêter. Êtes-vous militant ou juste engagé dans votre plume?
C'est une plume sincère, tout simplement. Militant, je le suis politiquement déjà, et donc au service surtout de la vérité. Vous savez, c'est une question, comme je le disais, de tempérament. Il faut assumer. Je dis tout simplement ce que j'ai vécu.
Ouais.
Et ce que j'ai vécu, c'est encore, je pense que c'est les 5 dernières années, on peut encore avoir accès aux fiches, à la documentation et à tout ce que je dis. Donc c'est facilement recoupable.
Nous allons partir encore en balade pour écouter la page 14 et 15 de votre document.
La Nation Centrafricaine et les Récifs. Page 14-15. Devant cette impasse, Bozizé décida le 13 janvier 2013 d'envoyer une délégation à Brazzaville rencontrer le président Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine. Un petit avion fut loué auprès de la compagnie privée Minère, qui mit 3 heures pour gagner Brazzaville au lieu d'une heure et demie. Et à son bord, Enoch Dérand-Lakoué, ancien Premier ministre, président du PSD, membre de la majorité présidentielle, très introduit à Brazzaville pour y avoir passé quelques années en tant que directeur général de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC. Léon Dibéré, ancien fonctionnaire des Nations Unies. Faustin Archange Touadéra, Premier ministre fraîchement remplacé par Nicolas Tchangaï, vice-président du KNK, le parti présidentiel. Francis Bozizé, fils de son père et garant des intérêts de la famille. Leur mission, persuader le médiateur de faire en sorte que le ministère des Mines reste la chasse gardée du clan Bozizé. Reçu par l'ambassadeur de la République centrafricaine au Congo, Madame Fayanga, ce beau monde attendra 24 heures avant d'être reçu. D'ailleurs, compte tenu de la teneur de la mission, la délégation tentera d'exclure l'ambassadeur de cette rencontre, sans succès. Après une rapide présentation de la situation, le président Sassou décida que le ministère des Mines fût divisé en deux, la partie pétrole revenant au clan Bozizé. Une demi-victoire qui ne pouvait pas les réjouir, car cette décision signifiait que je pourrais diriger l'autre ministère. Francis Bozizé s'en ouvrit directement au président Sassou. « Monsieur le président, nous ne pouvons pas confier l'autre ministère à Maître Mbolingumba. Il nous a combattus en finançant la guerre contre les Centrafricains. »
100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon Diketé.
Finalement, vous êtes devenu un Wintilde à cette époque-là. Alors, pourquoi le régime Bozizé voulait garder ce portefeuille, ce ministère des Mines?
Je pense qu'il faut poser la question aux tenants de ce régime. Ce que je sais, c'est que
Parce qu'on voyait qu'ils n'aimaient pas vous donner ce portefeuille ministériel.
Je n'étais pas demandeur. Je pense qu'il y avait un contexte précis où l'opposition avait, au sommet de Libreville, signé un accord éponyme qui faisait que le Premier ministre était issu de l'opposition, donc Maître Nicolas Tchangaï. Il fallait une reprise en main vigoureuse de l'État. Et donc, le ministère des Mines était un des leviers nécessaires pour assainir les finances de l'État. Il y a eu un blocage pendant 2 semaines. Nous étions tous dans cette histoire en tant qu'acteurs et parfois on n'en comprenait pas tous les enjeux. Moi, je ne faisais pas une sorte de fétichisme pour le ministère des Mines. Il est vrai que pendant 10 ans, quand je suis rentré dans ce pays, j'ai travaillé pour des groupes internationaux. Je suis rentré dans ce pays les aidant à se lister à la Bourse de Londres, de Toronto, à partir de Bangui, parce que ces sociétés avaient des succursales ici. Et pour lever des fonds publics, il faut faire ce qu'on appelle dans le jargon du droit des affaires, une legal opinion, qui puisse permettre de les lister à la Bourse de Londres pour qu'il y ait des investisseurs publics, parce qu'il faut des investissements pour l'exploitation industrielle d'une mine. Et donc, en considération de tout ça, j'avais quand même une connaissance assez poussée du secteur minier centrafricain. Peut-être qu'on voulait éviter que je sois au fait d'un certain nombre d'irrégularités, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on peut vérifier tout ce que je dis auprès de notre ambassadeur à Brazzaville, Mme Fayanga, qui était là à l'époque, qui a assisté à cet entretien. Donc je dis des choses absolument vérifiables.
Des choses absolument vérifiables. Vous, derrière votre plume, il y a cette humilité. Et même si vous n'aimerez pas dire dans cette émission 100% Culture que vous êtes un peu engagé, mais il faudrait que je le dise. Il faudrait que je le dise. Vous êtes vraiment engagé dans votre plume. Et la surprise des Centrafricains et des Centrafricaines, c'est cette question qui va venir parce que, à un moment donné de l'histoire, il y a un acte qui s'était posé. Et aujourd'hui, presque la moitié de la population centrafricaine a oublié ce fait. Le document est passionnant avec des informations qui s'y trouvent. Je vais voir votre analyse en tant qu'avocat. Dites-nous si le colonel Massi était assassiné sous le commandement de Bozizé. Car on se souvient qu'à un moment donné, la justice déclarait qu'il faut attendre 10 ans pour prouver que Massi est mort.
D'accord. Non, je pense que, encore une fois, je ne suis pas une institution judiciaire et je dis dans ce livre que le peuple raconte. Mmh. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Je suis un avocat, donc je ne peux pas me permettre de lancer des accusations. On a raconté tellement de choses. Vous savez qu'il y a des images qui circulaient sur Internet, pas sur Internet, mais sur des messageries, sur des téléphones.
Ouais.
Massi, paix à son âme, que je connaissais personnellement, c'était un homme courageux qui avait beaucoup de convictions. Et je regrette qu'il soit aujourd'hui disparu, parce qu'il avait encore de fiers services à rendre à son pays. C'était un homme admirable à plusieurs points. Je voudrais simplement dire qu'il avait été viré, entre guillemets, d'un gouvernement. Il avait décidé d'intégrer la rébellion et qu'il a disparu tragiquement. On n'a jamais vu son corps. Donc voilà. Mais je relate ce que tout un chacun raconte à Bangui. Vous savez, il y a une différence entre ce que j'écris. J'affirme et parfois je parle au conditionnel. Mm-hmm. Parce qu'en tant qu'avocat, évidemment, je ne sais pas.
Ouais.
Et donc on raconte, on a tellement raconté des choses. On a raconté et on a accusé beaucoup de gens, comme vous le savez. Aujourd'hui, tout porte à croire que Massi, même si on n'a jamais vu son corps, il a bel et bien été assassiné. Par qui? Je ne saurais le dire. Je ne peux pas le dire parce que je ne le sais pas.
Peut-être ça sera complété quelque part. Parce que quand j'ai lu cette partie, je me suis dit, tiens, est-ce que Maître Mbolingoum a lu la chanson que je suis en train d'écrire? J'ai écrit une chanson comme ça. Puis
ah bon?
Oui.
Ah, c'est très bien. Les grands esprits se rencontrent. Alors.
Voilà. J'ai inclus cette partie et avec d'autres faits.
Ah, c'est très bien. Ben, donc vous avez plus d'informations que moi sur la disparition de M. Massi.
Je ne dirai pas oui.
Mais vous ne dites pas non.
Je ne dirai pas oui et je ne dirai pas non. Et peut-être certaines informations sont concordantes avec ce que vous avez écrit dans votre document.
Tant
si
mieux.
Bien que j'ai dit, vous vous cachez derrière votre humilité, votre côté engagé.
Ben, vous savez, j'ai reçu une éducation chrétienne. Dans une famille qui était très chrétienne, et je crois au relativisme. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des hommes. Et une vie, ça passe très vite. Ce qui importe, ce sont les vérités que nous disons pour les générations futures. Et ce livre, je souhaiterais que mes enfants puissent le lire quand je ne serai plus. Parce que c'est le témoignage d'un engagement au service surtout de la vérité, au-delà de la nation. Parce qu'une nation, c'est la vérité. Mmh. Et c'est cette image que je voudrais qu'on garde de moi. C'est-à-dire un homme qui est au service de la vérité, quelle qu'elle soit, même quand elle dérange.
Ouais.
Et une nation ambitieuse doit avoir comme tâche principale la vérité. La vérité, c'est tout ce qui peut faire avancer une nation. Parce que quand vous faites des erreurs, parce que l'erreur est consubstantielle à notre condition d'humain, et que vous n'avez pas le courage de reconnaître que vous avez fait une erreur, comment allez-vous vous corriger si vous ne mettez pas le bon mot sur ce qui vous a fait tomber pour que vous puissiez vous relever? C'est la vérité. Ouais. Voilà pourquoi, déjà pour un homme, mais surtout pour une nation, nous devons avoir le courage de dire « nous nous sommes trompés ici ». Et à partir de là, quelle est la thérapeutique nécessaire pour soigner le mal? Sinon, on se tromperait de thérapeutique, ou on ne prendrait pas de thérapeutique du tout d'ailleurs. C'est ça qui a rangé les bases, le fondement de la nation centrafricaine, et cette nation qui est inaboutie, comme je le dis dans ce livre. Il y a beaucoup de paramètres qui concourent à cette fragilisation des fondements de la nation centrafricaine, notamment l'accaparement des institutions républicaines par des médiocres, quand ceux qui auraient pu, ce que j'appelle les âmes fortes, qui sont formées pour, dans une nation, ce sont les mieux formés qui doivent être au centre des décisions. Quand ces gens, que j'appelle les âmes fortes, rasent les murs et acceptent la médiocrité comme modèle, la nation ne peut pas se développer. Et cette quête de vérité, c'est le commencement de la Renaissance.
C'est le commencement de la Renaissance. Bien avant qu'on écoute la voix de Fanny, en lisant cette page 22 de ce document, La Nation Centrafricaine et les Récifs, pourquoi vous avez décidé de ne pas quitter le pays quand on vous traquait? Parce que j'ai lu quand vous avez écrit que vous étiez obligé d'aller vous cacher au niveau de l'aéroport Bangui Poko avec Maître Nicolas Tiangaï. Je me suis dit, mais attends, il pouvait bel et bien quitter le pays.
Parce que c'est
le sens patriotique ou bien?
Mais parce que je ne sais pas capituler par tempérament.
Ouais.
Il m'est arrivé de me retrouver en exil à 22 ans. Je suis parti en exil parce que je n'avais pas le choix. Il fallait que je finisse mes humanités. Il fallait que j'ai mes diplômes pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de ma famille. Une fois ces diplômes acquis, je suis rentré. Donc je n'avais plus de raison de me retrouver en exil à partir de là. Je suis resté pour continuer le combat parce que j'y crois fermement. Je crois que ceux qui peuvent être utiles doivent continuer ensemble. Le but, la nation est plus grande que nos modestes vies. Et ma responsabilité, naturellement, appartenant à une famille, et moi-même chef de famille, c'est de rester en vie. Donc je prends les précautions nécessaires pour veiller sur ma famille, pour rester en vie et continuer le combat. Après ça, évidemment, il y a des contingences, notamment des restrictions de liberté. Le contexte, encore une fois, était survolté. Un escadron de la mort avait été mis en place pour attenter à nos vies, ceux qui étaient de l'opposition démocratique. C'est pour cette raison que Nicolas Tiangaï et moi-même, qui étions pourtant déjà dans un gouvernement, Nicolas Tiangaï étant Premier ministre, moi ministre des Travaux publics, nous nous sommes retrouvés au camp Poko parce qu'il ne pouvait en être autrement.
Mmh. Voilà. Nous écoutons Fanny dans la page 22 de cet ouvrage, La Nation Centrafricaine et les Récifs.
La Nation Centrafricaine et les Récifs, page 22. Quant à l'opposition militaire, c'est le cas, il m'a paru très tôt qu'elle n'avait pas une véritable ambition à gérer le pouvoir. Dès les premiers instants d'échange avec l'opposition démocratique, le chef de la coalition Séléka, Michel Djoutoudia, affirma n'exiger que 5 portefeuilles ministériels. Bien sûr, avec le temps et l'infiltration de certains ambitieux, pour qui l'occasion était trop belle, les choses changeront.
100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon Guiquetti.
Alors maître, quand on arrive ici, c'est une vérité, mais difficile à digérer pour certains qui vont écouter cette partie. On dit non, mais laissez les cas et marcher sur Bangui, ils ont pris le pouvoir. Mais comme vous êtes là pour donner des informations, pour expliquer ce qui est dans votre ouvrage, j'ai le devoir de vous poser cette question afin d'avoir une explication appropriée. Quels sont les ambitieux qui ont fait que la vision principale de Séléka a vite changé quand Séléka marchait sur Bangui?
Non, je pense que vous faites une confusion. Je parle de... parce qu'il y a eu des négociations pour former le gouvernement.
Oui.
le cœur du pouvoir se trouvait à l'hôtel Ledger. C'est là où le président Djotodia avait pris ses quartiers avant de regagner le palais. Et en tant que membre de l'opposition démocratique, accompagné de Nicolas Tchangaï, qui en était le chef, nous discutions en même temps que les forces vives de la nation. Parce qu'il fallait... Nicolas Tchangaï était maintenu Premier ministre après le départ de Bozizé. Le nouveau président intérimaire, il s'appelait Michel Djotodia. Il fallait donc que l'exécutif, ayant deux têtes, puisse s'asseoir et débattre des questions de formation du gouvernement, notamment. Mmh. Et c'est à ce moment-là que, très clairement, le président de cette coalition, Michel Djotodia, disait que le but n'était pas d'avoir tous les ministères. Quand je parle des ambitieux, vous savez, quand un nouveau pouvoir s'installe, et je parle de ça dans le document, tous les visiteurs qui n'étaient pas que des visiteurs du soir, qui encombraient les couloirs de l'hôtel Ledger, qui essayaient de se positionner en usant d'un certain nombre de liens, ainsi de suite, évidemment, c'est ceux-là dont je parle ici. Mais ce n'est pas spécifique à un nouveau pouvoir, à tous les pouvoirs. Il y a toujours des ambitieux, il y a toujours des opportunistes qui, d'ailleurs, la veille, disaient autre chose, qui viennent se mettre au service du nouveau pouvoir. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la routine, mais la routine qui est faite d'une manière différente. Si vous écoutez Radio Neki Local, émission c'est 100% culture, et aujourd'hui, mon invité c'est Maître Crépin Mboli Ngoumba, auteur de La Nation Centrafricaine et les Récifs. Il est dans le studio A de Radio Neki Local pour parler de ce document et pour le défendre. Il fera la dédicace de cet ouvrage plein d'informations vendredi à 15h à l'hôtel Ledger. Un ouvrage que vous trouverez vraiment ce que vous voulez sur le pays, et c'est à lire sans modération. Maître Crépin Mboli Ngoumba, allons à cette aventure dans la page 27 et nous allons revenir pour des questions.
La Nation Centrafricaine et les Récifs, page 27, chapitre 2, le chemin de Libreville. Je ne sais pas pourquoi je pense à Damas en ouvrant ce chapitre. Peut-être le sentiment d'une espérance déçue, une histoire qui aurait pu, qui aurait dû être. Voir les politiques centrafricains, Bozizé en tête, trouver leur chemin et se convertir à la démocratie et à la paix au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Un petit avion de transport militaire de fabrication espagnole mis à disposition par le gouvernement gabonais pour acheminer à Libreville les protagonistes de la crise centrafricaine. Un avion dépourvu de radar obligé de repousser le voyage au lendemain pour cause de mauvais temps à l'appréhension à voler de nuit. Dans cet avion militaire, naturellement, aucune accommodation. Défilé auquel s'agripper, voilà tout. Personne ne semblait percevoir le sens du symbole. Ils étaient tous là, pressés d'aller à Libreville au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Aucun premier ministre, ministre, société civile. L'un arriva tellement mal en point qu'il fut hospitalisé d'urgence. À l'arrivée, aucun service d'accueil. Et l'humiliante impression d'être des animaux de cirque.
100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon guiqueté.
Maître Crépin Mboli Ngoumba, est-ce que ici, vous voulez dire qu'à un niveau, les autres ont en marre de la situation centrafricaine et décident de traiter inconsidérablement les acteurs de la crise pour qu'ils reviennent à raison?
Et la réponse est dans la question, vous savez très bien. Le sort qu'on nous réserve. Nous sommes devenus, je l'ai dit à l'entame de cette émission, nous étions devenus la risée du monde entier, de par nos différents comportements. Nous n'avons pas su gérer en interne nos contradictions. Et donc cette infantilisation a eu comme effet un certain mépris qui est tout à fait justifié de la sous-région qui ne comprend pas nous-mêmes, et j'ai décrit quelque part, quand certains acteurs étaient allés voir le commandant en chef des forces de la FOMAC, de la CEAC en Centrafrique, le défunt Chumeta, paix à son âme, parce qu'il voulait être président de la transition quand on avait ouvert les candidatures après la démission forcée de Michel Djotodia et de Nicolas Tchangaï. Ça vous renseigne sur l'état d'esprit de nos compatriotes. Ils ne peuvent pas s'assumer. Ils pensent que n'importe quel étranger qui vient ici, parce qu'il occupe un poste de responsabilité, il peut changer leur destin. Le général Chumenta m'avait appelé pour se plaindre de ce que mes compatriotes avaient un comportement tout à fait affligeant, et je l'ai décrit. Enfin. Donc évidemment, on ne peut pas respecter. Le respect n'est dû que si l'on est respectable. C'est une question, comme quelqu'un l'avait dit avant moi, de déontologie de conduite. Si on ne se conduit pas très bien, on n'a pas droit au respect. Et ces dernières années, nous ne nous sommes pas bien comportés et par voie de conséquence, nous ne nous sommes pas respectés.
Quand vous parlez des élections, si je ne me trompe pas, dans votre page 28, qui selon vous était une nomination avec le jeu, de pasteur Bindima les faisant gagner le parti présidentiel, est-ce que par là, vous accusez en partie certains membres de l'opposition qui soutenaient ce processus électoral?
Je pense qu'ils avaient manqué de lucidité politique. Moi, j'étais vice-président de la commission électorale indépendante au titre de l'opposition. Et j'avais démissionné de ce poste-là parce que je voyais venir les fraudes et je ne voulais pas assumer la responsabilité de ce qui allait advenir. Évidemment, si mes pairs de l'opposition avaient compris la nécessité d'agir de la même manière, on aurait bloqué le processus. On aurait eu droit certainement à des élections un peu plus crédibles. Au lieu de ça, certains membres de l'opposition avaient été retournés à l'époque par Bozizé. On leur avait mis à disposition des aides de camp. Ils avaient même renié leur camp. Vous voyez, il y en a qui sont restés et ont organisé des élections seulement après coup. On estimait que ces élections étaient entachées. Donc nous avons manqué de lucidité. Il faut absolument le reconnaître. Et c'est ce que j'appelle la quête de la vérité, d'abord vis-à-vis de soi-même. Bozizé, si je le dis encore, n'avait pas besoin d'élections frauduleuses. Pourquoi ? Parce qu'il avait une certaine emprise sur la machine d'État et je suis persuadé qu'il aurait gagné les élections. Il aurait eu droit à un deuxième mandat, certainement qu'il y aurait eu un second tour. Et je le disais à qui voulait l'entendre. Pourquoi ? Parce que l'opposition était divisée. Mmh. On ne peut pas gagner dans ce pays. Et ça, c'est une vérité qui va être vérifiable sur les 10 prochaines années ou les 15. Parce qu'on a un émiettement de l'électorat centrafricain. Celui qui est au pouvoir, il ne peut naturellement que profiter de la division de l'opposition. Et cette opposition était allée aux élections de manière divisée, en rang dispersé, comme on dit. Donc, de mon point de vue, et je le disais, Bozizé n'avait pas besoin de frauder les élections. Il aurait gagné ces élections. Il aurait gagné ces élections certainement au second tour. Évidemment, à l'Assemblée nationale, ça aurait été une autre histoire. C'est là où, évidemment, les fraudes ont été scandaleuses. Donc, fort de tout ça, les élections mal préparées, les élections truquées ont ouvert la voie, la porte de Pandore, et ont donné une certaine justification à la rébellion et un rejet du peuple. Voilà tout.
Ce qui me fait marrer dans le document, c'est quand vous avez gagné les élections, et il a pris son temps pour qu'on vous appelle.
Vous savez, j'ai été évidemment... Je pense que c'était faire preuve de hauteur ou de vice, je ne sais pas. Mais moi, vous savez, pour le général Bozizé, je préfère vous le dire, j'ai une immense admiration pour son parcours, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Le général Bozizé, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas au poste qu'il a occupé en tant que président de la République. Les gens l'ont souvent sous-estimé, mais il avait une telle connaissance des hommes qu'il les a tous eus. J'ai souvent raconté l'humilité qui était la sienne, avoir été général, ministre, et rentré d'exil, il a accepté d'être un transporteur quasi clandestin. C'est un acte d'une puissance spirituelle extrême. Et j'ai toujours eu du respect pour ça. Quelles que soient les divisions qu'il y a eu après dans la gestion, je n'ai jamais été proche de Bozizé. Un de ses fils était un de mes amis et il est resté un frère pour moi. Mais ce monsieur a eu un parcours. Et donc, après les élections, pour en revenir à votre question... J'étais dans mon bureau et j'étais avec un de mes confrères, Maître Hakem. On parlait d'un dossier, mon téléphone a sonné et on m'a demandé de ne pas quitter pour le président. Et comme il y a beaucoup de présidents en Centrafrique, je ne savais pas que c'était le premier des présidents.
Ouais.
Et c'est quand il a pris la parole qu'il a dit « Allô, comment va-t-on ?» Il avait une façon particulière de parler et j'ai reconnu son timbre. J'ai dit « Monsieur le Président ?» Il a dit « Oui, effectivement, il m'a appelé, on a échangé quelques banalités et c'était... C'était très inhabituel et pour tout vous dire, j'ai apprécié cette conversation téléphonique.
Et maintenant, j'espère qu'il ne va pas vous appeler encore pour vous perturber.
Il ne m'a jamais perturbé. Il a été président de la République, on lui doit du respect.
Ouais.
Comme à tous ceux qui ont géré la nation centrafricaine. Parce que je crois dans les institutions de la République. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Quelqu'un qui devient président de la République, il y a travaillé et le destin l'y a aussi poussé. Donc c'est une conjonction de plusieurs éléments qui fait que cette conjonction, qu'un homme devient président de la République. Il n'y a pas de hasard.
Alors si vous me permettez, on reste encore sur ce point, mais je vais vous poser une autre question. Pensez-vous que Martin Zigilé cautionna certaines erreurs du régime Bozizé?
Non, je ne pense pas. Pourquoi?
Parce que quand je vous lis une partie...
De Bozizé?
Oui, de Bozizé.
Non, jamais. Il était un opposant résolu, un opposant droit dans ses bottes jusqu'au bout.
Je fais déjà allusion à cette formation de phare que vous n'avez pas décidé de faire partie avec Pouzer. Parce que, selon vous, dans votre ouvrage, il y a certaines personnes qui ne font pas front jeu.
Non, mais ça n'a rien à voir avec notre positionnement politique par rapport à Bozizé. Non, il ne faut pas qu'il y ait un malentendu sur cette question.
Mais c'est bien que vous êtes là, c'est pour expliquer aussi...
Vous voyez, j'ai démissionné, comme je l'ai dit, de la commission électorale indépendante. Certains représentants de l'opposition y étaient restés. À partir de là, il y a eu une ligne de démarcation entre ceux qui ont continué le processus jusqu'au bout et ceux, comme moi, qui n'étaient pas d'accord. Mmh. Il y a eu un malentendu, sans que cela porte atteinte à l'intégrité de la lutte politique contre le général Bozizé. Donc non, il n'a pas... Et peut-être que nos erreurs communes ont fait le lit du renforcement du régime Bozizé, mais à aucun moment... Martin Zigilé s'est trouvé compromis dans la lutte vis-à-vis de Bozizé.
Et quand vous parlez de Martin Zigilé, qu'il était préparé pour être à la présidence, est-ce que c'était un plan sous le régime de Michel Ndoutoudia ou bien ?
Il y a eu un malentendu sur cette phrase. Écoutez, vous vous projetez quand vous êtes un homme politique. Nous étions de l'opposition, nous avions la primature. Il était naturel que la suite puisse continuer dans le même sens, c'est-à-dire avec l'opposition démocratique. Nous y travaillons. Moi, en tant qu'homme homme de parole, homme d'honneur, j'avais accepté que Martin Zigilé devienne président de la République à l'issue de la transition. Pourquoi ? Parce qu'en entrant au gouvernement, je comprenais très bien, selon l'esprit et la lettre de l'accord de Libreville, et après de tous ces amendements, notamment la charte qui a suivi, charte de transition, charte constitutionnelle de transition, que je ne pouvais pas être candidat à l'élection présidentielle. Et j'acceptais parfaitement que Martin Zigilé soit le candidat unique de cette opposition réunie dans le collectif des 9 partis qui combattaient politiquement le général Bozizé. Après, évidemment, il y a eu d'autres développements, notamment la démission de Nicolas Tchangaï et de Michel Djotodia qui ouvraient d'autres perspectives, notamment la possibilité, à mon sens, aux anciens acteurs de la transition d'être candidats. Mais il y a eu un malentendu, comme c'est normal en politique. Donc pour moi, il n'y a pas de complot. C'était juste une entente pour que... Comment ne pas se projeter à l'issue d'une transition de 18 mois ? Nous avons décidé, nous avons réfléchi, nous avons estimé qu'il était important que les tenants de la transition puissent soutenir la candidature de Martin Zigilé. Après tous les développements, toutes les interprétations... Et qui en a été fait entre le développement et les interprétations. Moi, je dis que c'est ce qui avait été décidé sans que cela soit une preuve de complicité en quoi que ce fût.
Nous allons partir dans ce document, la nation centrafricaine et les récifs.
La nation centrafricaine et les récifs, pages 42-43. Entamée le 10 décembre 2012, une coalition rebelle venue du Nord conquiert très facilement plusieurs villes du Nord-Est, Breya, Bombari, Ouada, Ndélé, Patangafu et Kagabandou. Mal équipée, mal entraînée, corrompue et politisée, l'armée nationale est très vite mise en déroute. Pris de panique, Bozizé et son clan tentent tant bien que mal d'organiser la riposte en allumant des contre-feux. Très vite, les ennemis du régime sont publiquement désignés, les musulmans, l'opposition et la France. Les Viakete fondent la milice Kokora, armée de machettes et tristement célèbre dans la terreur contre les musulmans. La nuit tombée, cette milice rackette les citoyens à travers des checkpoints en lieu et place de la police. Destin tortueux que celui de ceux Les Viakete. Moyennement intelligent, je fis sa connaissance dans le mouvement syndical étudiant. Il était parvenu à se hisser laborieusement en laissant son droit quand j'entrais en première année. Dès ma première année, je fus élu secrétaire général de l'Association nationale des étudiants centrafricains alors qu'il en était le vice-président. Quand une année plus tard, alors en deuxième année, je me présentais à la présidence du mouvement syndical, Yakité était mon concurrent. Patassé venait de gagner les premières élections vraiment démocratiques et Yakité était le candidat du nouveau régime. Considéré comme proche de Gouba, donc opposant, il fallait absolument éviter que le syndicat des étudiants tombe entre les mains de l'opposition, laquelle pourrait paralyser l'université. Ce qu'il convient de dire, c'est que le même Yakité s'était mis au service du régime de fin de Kolingba et qu'il en était à son quatrième parti politique après l'ADP, le RDC, le MLPC, enfin le KNK.
100% Culture avec Cyrus Armand, c'est mon Guiquetté.
Un document avec des coups de gueule réussis et des bons, pas de langue de bois. Maître Crepin Bolingumba, les Viakete et Nguinebem, selon vous, à l'époque où tout commençait à basculer, était-il l'une des souffrances des Centrafricains à l'époque?
Non, ils défendaient un régime et j'étais l'opposant à ce régime, chacun jouait son rôle. Les Viakete était un frère. Nous sommes trouvés opposés sur pas mal de choses, mais nos sentiments personnels n'ont jamais changé et c'est ça qu'il faut qu'on retienne. Guénébem était membre du KNK, il est resté membre de ce et j'adore la linéarité de ce combat, il est resté fidèle à son parti. Il n'était pas membre de Kokora, il faut le dire. Et j'ai beaucoup de fraternité pour Guénébem, qui est mon cadet et un cadet brillant. Il intervient souvent. Sur vos antennes. Je pense que dans la diversité, parfois même dans la contradiction, il faut qu'il y ait beaucoup de centrafricains, jeunes, vieux, qui soient brillants, qui assument leurs convictions. Parce que je veux qu'on ait une république ambitieuse. Donc voilà, aujourd'hui j'évoque la mémoire de ce frère disparu dans des conditions tragiques que Lévi a quitté. Il a été, il restera toujours pour moi un frère. Nous avons partagé beaucoup de choses. Nous nous sommes opposés. Et avec la passion, nous sommes vraiment opposés, mais jamais les liens fraternels qui existaient entre nous ne se sont trouvés affectés. Et c'est ça là qu'il faudrait qu'on retienne de ce combat. J'aurais tellement aimé qu'il soit encore là, les Viakete, qu'on s'oppose comme on savait le faire et qu'on sache se retrouver. Et c'est dommage qu'il soit parti si vite. Je pense qu'il avait encore beaucoup à donner à son pays parce que, encore une fois, l'intelligence, elle est mise au service des causes. Parfois, on se trompe de cause. Mais l'homme, il reste l'homme. Et les liens que nous tissons sur le chemin de la vie, ce sont des liens qui restent. Parce que vous savez, le pouvoir, on finit par le perdre. On finit toujours par perdre le pouvoir. Et De Gaulle disait d'ailleurs que la seule certitude qu'on a en entrant dans un gouvernement, c'est qu'on en sort. On sort toujours d'un gouvernement.
Quand j'ai lu le document, pour finir cette œuvre passionnant, ce qui me retient à chaque chapitre, vous essayez de mettre une citation d'un auteur, ce qui montre aussi votre côté culturel, cette recherche perpétuelle en vous. Est-ce que ces auteurs que vous avez intégré leur citation dans votre ouvrage vous ont marqué?
C'est d'abord l'esprit de chaque chapitre. En mettant une citation, vous savez exactement de quoi il retourne. Je pense que vous vous êtes retrouvé là-dedans. Et d'une certaine manière, oui, nous ne faisons que continuer ce qui a commencé depuis la nuit des temps, depuis que l'homme a essayé de comprendre le fonctionnement de la nature et a commencé à penser. Et pour mettre des noms sur des comportements, la société, fonder la société qui doit s'améliorer à chaque instant. Et c'est une question d'étape. Donc oui, je pense qu'il n'y a rien de plus important que la culture. Moi, mon père était enseignant Et la richesse que j'ai reçue de lui, c'était la culture. La culture, l'instruction, évidemment des valeurs. Et je pense que c'était la meilleure richesse qu'il pouvait me laisser. Et je ne me rendais pas compte encore. Mmh. Aujourd'hui, plus que jamais, oui, je pense que c'était la meilleure chose à laisser et je l'en remercie. Donc, j'ai été marqué par la culture universelle, l'ouverture sur les autres. C'est pour ça que je ne suis pas un esprit fermé. C'est pour ça que j'admets quand je me trompe et qu'on me contredise. Et j'admets de tomber et de me relever. Et parce que nous ne sommes que des hommes, après tout, je l'ai déjà dit. Et il est important que dans notre pays, on intègre ça. On intègre qu'on peut être puissant aujourd'hui, être impuissant demain, être plus bas que terre demain. Il n'y a pas des situations éternelles. Ce qui compte, c'est de pouvoir travailler pour notre pays, de faire sa part, de faire cette part-là dignement, et de passer la main pour que la postérité se souvienne des actes que nous avons posés, et que dans le cœur de nos compatriotes, même quand nous ne serons plus de cette terre-là, que les compatriotes nous disent qu'il a été utile à sa nation. Il n'y a pas meilleure récompense. Parce qu'après tout, vous avez vos enfants, vos petits-enfants, et toute la lignée. Il faut que vous sachiez vous montrer honorable pour cette mémoire et pour la postérité.
Si vous êtes à l'écoute de Radio Ndekiloka, l'émission c'est 100% culture et mon invité aujourd'hui c'est Maître Crépin Moli Ngumba. Il vient pas avec sa casquette politique, il vient avec sa casquette culturelle. Il est dans le studio Radio Ndekiloka pour défendre et expliquer son ouvrage La Nation Centrafricaine et les Récifs. Maître Crépin Moli Ngumba, quand je vous ai lu à la page 44-46, on a juste besoin de vous poser cette question. Est-ce que la gestion de la chose publique pendant le régime de Boisé était une gestion familiale et clanique?
La réponse est dans la question, encore une fois. C'est pour ça que nous étions dans l'opposition.
Donc c'était cette gestion-là. Permettez-moi qu'on parte encore dans ce document avec la voix de Fanny à la page 138 et 139 et nous allons revenir pour des questions.
La Nation Centrafricaine et les Récifs, page 138-139. Le scénario qui était clairement établi était que la transition devait se terminer par l'élection de Martin Zigeli à la magistrature suprême de l'État. Le président ne manquait pas de rappeler dans ses conversations qu'il était pressé de passer la main à Martin, comme convenu. En attendant, il fallait installer rapidement les institutions qui devaient permettre cette passation sans heurts du pouvoir. Le principe était le processus surtout, chaque entité devant bénéficier d'un certain quota afin d'assurer l'équilibre dans les rapports de force. La première alerte est pourtant intervenue lors de la mise en place du premier gouvernement post-Bouzizi. On pouvait arguer que c'était une affaire entre les membres d'un même camp, l'opposition démocratique. Ce serait une lecture superficielle. La confiance qui s'est installée entre nous, membres de l'opposition démocratique, et les actes posés par la suite par certains d'entre nous ont créé un climat tel que Michel Djotoudia et Nicolas Tsangay se sont retrouvés piégés et frontalement opposés. Je puis dire que l'inexplicable fébrilité des dirigeants du MLPC a faussé le jeu dès le départ avec l'initiative de Koyambounou de s'aborder le tout premier gouvernement. Il arrivait pourtant tout à gagner à se faire conciliant dans la mesure où, après la transition prévue pour durer 18 mois, le pouvoir leur était promis. Homme de parole, je n'y trouvais rien à redire. Dans la mesure où cette décision avait été entérinée après une discussion entre moi-même, Nicolas Tsangay et Michel Djotoudia.
100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon guichetier.
Page 138-139 de cet ouvrage, La Nation Centrafricaine et les Récifs, un ouvrage de Maître Crépin Moli Ngumba. Ici, Maître, je n'aimerais pas vous poser une question, mais je veux juste vous écouter à donner une explication de cette partie.
Malheureusement, cette explication, je l'ai donnée et vous avez anticipé sur la question.
Oui.
J'ai dit qu'il était normal de se projeter pour savoir lequel d'entre nous était le mieux à même de gérer l'État à l'issue de cette transition. Les trois leaders de cette opposition étaient Nicolas Tsangay et moi-même et Martin Zigeli. Tsangay était Premier ministre, moi j'étais ministre d'État. Et Martin Ziegele était en réserve de la République, comme on dit. Il était donc normal que lui qui était en réserve de la République puisse accéder à la magistrature suprême de l'État à la suite de cette transition. Voilà pourquoi nous avions dit, bon voilà, et ce ne serait que justice, puisqu'il est en réserve de la République, nous sommes déjà en train de gérer la transition, qu'il nous succède. Malheureusement, il y a eu mésentente sur un certain nombre de choses, et puis le scénario écrit n'a pas été respecté dans la mesure où il y a eu une double démission de Nicolas Tchangaï et de Michel Djotodia. Catherine Samba-Panza a été installée à la tête de l'État provisoirement. Donc voilà, donc il n'y a pas malice ici.
C'est exprès que je mette cette partie et je vous demande de donner une explication parce que à un moment donné de l'histoire centrafricaine, le peuple pensait que Maître Nicolas Tchangaï n'assumait pas normalement sa responsabilité quand il était Premier ministre. Et aussi, on accusait à un moment donné Martin Ziegele de faire partie de la milice Séléka. Vous avez travaillé avec ces deux. Vous avez eu la chance de voir comment est-ce que chacun travaille de son côté et même côtoyer leur franchise. Ça, c'est personnel, c'est pas dans le document, cette question. Croyez-vous à cette accusation du peuple centrafricain envers ces deux messieurs?
Moi, je ne suis pas le peuple centrafricain, je ne suis qu'un maillon de cette longue chaîne qu'on appelle le peuple centrafricain. Je pense que si vous poussez loin la réflexion, vous devez admettre aussi que, de même que Nicolas Tchangaï, Martin Ziegele, moi aussi j'avais été accusé d'être même le financier. C'est qu'à travers Greenberg, je vous ai démontré que quand Greenberg est venu en Centrafrique, j'étais étudiant à Dakar. Je pense qu'il n'en est rien, nous étions l'opposition démocratique. Et ces accusations sont venues essentiellement des partisans du général Bozizé, parce que l'opposition était pugnace, défendait la démocratie et qu'il fallait trouver des boucs émissaires. Nicolas Tchangaï et Martin Ziegele, et encore moi-même, mais puisque vous parlez de Nicolas Tchangaï et Martin Ziegele, nous étions l'opposition démocratique. Nous ne luttions pas. Vous savez, si on avait un peu de recul, on ne porterait pas ce genre de jugement. Quel intérêt un homme politique a-t-il de financer une rébellion en sachant que dès lors que un rebelle prend le pouvoir par les armes, il est en position de force, il ne va pas donner le pouvoir. Avez-vous déjà vu dans un pays quelconque un membre de l'opposition, un homme politique, financer une rébellion et à la fin, après la conquête du pouvoir, le rebelle il remet le pouvoir à ses chefs. J'aimerais que vous me le disiez. Donc,
malheureusement, dans cette émission, mon avis ne compte pas.
Donc voilà, je pense qu'il faut savoir raison garder. Nous étions dans un contexte où toutes les accusations, même les plus fallacieuses, étaient amplifiées par une radio nationale au service et aux ordres, comme je l'ai dit dans ce livre. Donc je peux vous dire que ce sont des accusations fantaisistes.
C'est des accusations fantaisistes. Peut-être encore une autre question qui vous touche personnellement. Vous avez décidé de ne pas faire partie de Phare et vous étiez parti avec Henri Pouzer. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, vos pères, qui étaient dans l'opposition démocratique, ont trahi peut-être leur position en soutenant à un moment donné les élections, qui tous les contours n'étaient pas respectés, ou bien ?
Ils n'ont rien trahi, nous n'étions pas d'accord, tout simplement, c'est ce qu'il faut retenir. Mais il est plus important de retenir encore que nous nous sommes retrouvés, Phare et sauvant le Centrafrique, dans le collectif de l'opposition démocratique, dont vous restez à une étape, mais une étape supplémentaire qui est celle de la réconciliation de l'opposition dans ces deux composantes au sein du collectif de l'opposition démocratique. Et c'est comme ça que nous sommes allés à Libreville. Et le coordonnateur de cette opposition réunie dans le collectif était Nicolas Tchangaï. J'en étais le coordonnateur adjoint. Donc nous sommes allés à Libreville négocier. C'est le plus important. On peut se déchirer. Le plus important, c'est de se retrouver et de se réconcilier. Donc ne vous arrêtez pas seulement aux étapes où il y a division de l'opposition. Nous avons su aussi nous réconcilier, aller de l'avant. Donc il n'y a pas eu que des échecs.
Ça taquine, ça booste, ça pose des questions bizarres dans cette émission et ça parle aussi bien de l'ouvrage et ça parle aussi bien de la personne, de l'auteur, de l'œuvre. C'est ça le principe. Pas le but de cette émission 100% culture. L'honneur est pour moi aujourd'hui de recevoir dans cette émission, mesdames et messieurs, Maître Crépin Mbolingumba, auteur de La Nation Centrafricaine et les récifs. Pour terminer cette émission, Maître, ceux qui nous écoutent, ceux qui ont écouté certaines parties, parce que je ne peux pas exposer toutes les parties dans cette émission, mais sinon ils ne vont pas acheter. Alors, ceux qui nous écoutent veulent aussi avoir ce document, cet ouvrage, cette œuvre pour lire, pour que ça fasse aussi partie de leur bibliothèque. On vend où et à quel prix?
C'est vendu à Bangui FM. Mmh. Bangui FM, c'est ex-Bangui Chimie, ouais. Là où il y a le restaurant L'Escale. Et c'est à 10 000 francs.
Seulement?
Seulement, bah c'est 10 000 francs en tout cas. Je ne sais pas si c'est seulement.
C'est seulement parce que 10 000 francs, c'est pas beaucoup pour...
Vous me conseillez d'augmenter le prix?
Mais pourquoi pas, si c'est pour augmenter, pourquoi pas? Avec toutes les informations...
Vous allez vous faire lyncher par les lecteurs et les lectrices.
Mais vraiment, je demande à tous les Centrafricains, ceux qui peuvent acheter ce document, il faut vraiment le faire parce que vous ne pouvez pas perdre. Dans ce document, vous trouvez tout ce qui touche le pays, tout ce qui a trait à la récente crise centrafricaine, même si c'est écrit par Maître Crépin Mbolingumba que certains, à un moment donné, l'aimait pas bien, l'appréciait pas bien, n'appréciait pas ses actes. Mais c'est un document riche en informations. Maître, en tout cas, merci d'être passé dans cette émission. C'est un honneur pour moi.
C'est un plaisir. Un plaisir.
Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas un sans deux. Peut-être
c'est le troisième livre.
Oui, il n'y a pas 304.
Bon, d'accord. Mais c'est une respiration normale, la culture, pour moi. Donc, il y en aura d'autres encore.
Merci beaucoup.
Je voudrais simplement préciser qu'il y a un café littéraire ce vendredi à 15h au Ledger, suivi d'une séance de dédicace. Voilà.
Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à cette séance. Pourquoi pas aussi participer?
Absolument, au débat. Le faut, c'est une invitation.
Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Restez bien à l'écoute de Ndekiluka.
100% culture avec Cyrus Armand, c'est mon guichetier.